La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Et donc en effet, un club de la tête au carré grenoblois aujourd'hui, puisque nous sommes en direct des studios de France Bleu Isère à l'occasion de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes, qui se déroulait donc hier soir. Les 16 doctorants avec lesquels vous avez fait connaissance tout au long de ces dernières semaines au micro de l'émission se sont donc retrouvés face à une salle survoltée, bourrée à craquer de la Maison de la Culture de Grenoble. Excellent millésime 2019 pour ma thèse en 180 secondes avec des candidats particulièrement convaincants cette année. Et nous avons cette après-midi avec nous justement les lauréats de cette finale, des membres du jury dont certains sont des scientifiques grenoblois, et je vous présente bien sûr tous mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour, c'est le chagrin d'amour des poissons qui est aujourd'hui à la une de la science.
Et oui, bonjour Mathieu, avec une étude très mignonne et qui encore une fois nous montre que ces animaux ont des émotions. On entre dans la vie de couple du cyclidé zébré dans un instant.
Et c'est Frédéric Milano qui réalise ce club en direct de Grenoble et Chantal de Montagny qui a préparé notre dossier.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue les invités de ce club spécial MT 180, avec tout d'abord les trois lauréats de la finale nationale, Tom Mebarki, Léa Vanderveer et Apolline Chabenat. C'est comme ça qu'il faut le prononcer, c'est ce qu'on m'a dit. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et bienvenue. Et puis les membres du jury qui ont attribué donc les trois prix hier soir, Chloé Ponce-Voiron, Jean-Pierre Nozière et Philippe Le Bouteiller. Bonjour à vous trois également.
Bonjour.
Et bienvenue. Tom, Léa et Apolline, vous avez donc reçu respectivement le premier, deuxième et troisième prix de ma thèse en 180 secondes hier soir, et Tom en prime a reçu, en plus de son premier prix, le prix du public, mais également son billet d'avion pour représenter la France à Dakar au Sénégal lors de la finale internationale le 26 septembre. Et Tom, mon petit doigt m'a dit que vous détestiez prendre l'avion.
C'est-à-dire qu'en fait, plus je prends l'avion et plus j'ai peur de prendre l'avion. Donc du coup, c'est-à-dire que voilà, je suis un peu condamné finalement à...
Ça tombe mal.
Non, mais ça va, je vous avez une raison.
Sinon, vous prenez le bateau, hein, ça prendra un peu plus de temps.
Alors oui, j'ai peut-être demandé au CNRS d'organiser une sorte de croisière jusqu'à Dakar, en partant peut-être aujourd'hui pour septembre, je pense.
C'est une bonne idée, la croisière des Thésards.
Voilà, il y a un truc à faire, je pense.
Ah, moi je pense aussi. En tout cas, un grand bravo à tous les trois. Comment vous allez ce matin, après cette journée, cette soirée de folie, Apolline, ça va? Vous avez bonne mine quand même. Hein,
bah merci, on n'a pas beaucoup dormi.
Oui,
je pense que l'adrénaline a fait son effet. Et moi, j'ai pas pu m'endormir avant 2h du matin, mais on est là.
Ouais, vous avez refait votre thèse en vous couchant, ou quand même vous l'avez laissé un peu de côté?
C'était un peu en boucle, ouais,
Et Léa, pour vous?
Ben oui, ça va, mais c'est pas que l'adrénaline, c'est les cocktails aussi qui fait qu'on est tous un peu fatigués ce matin.
Mais c'est normal.
Mais c'est normal et on est tous très contents.
Ouais, en tout cas, on va parler de cette soirée qui était vraiment extra, et puis de cette journée particulière pour vous, hein, entre les répétitions, l'attente de votre passage, la montée sur scène. Il y a eu un peu de yo-yo émotionnel tout au long de la journée.
Ah oui, je pense que nous tous, on faisait les 100 pas. On l'a vu en plus hier, on faisait les 100 pas dans le couloir.
Ah, il y avait une ambiance dans ce couloir, c'était terrible, hein, parce que le couloir était éteint, il n'y avait pas de lumière, mais on voyait des ombres. Et c'était de doctorants qui étaient là en train de se croiser comme des zombies, hein, c'était étonnant. Mais ça vous a relaxé quand même, Tom, visiblement, non?
Oui, bah, c'est-à-dire qu'en plus j'ai eu la chance de passer en dernier, donc du coup j'avais vraiment le temps de m'imprégner des coulisses et de tout ce qui s'ensuit.
Léa, vous avez adopté quelques méthodes de déstressage avant de monter sur scène?
C'est vrai, on appelait ça le Walking Dead, on était tous en train de se balader dans les couloirs sans lui. On a beaucoup rigolé aussi. Je crois que ça aide énormément. Nous, tous les trois, on était ensemble en train de rigoler juste avant.
Ah, c'était vraiment le groupe des 16. Hein. On verra, mais il y avait une bonne cohésion entre le groupe, et je pense que ça a été important aussi pour la qualité de la soirée. On va revenir bien sûr sur vos prestations, et puis on va parler avec les membres du jury. Il y en a trois, en tout cas, avec nous cet après-midi. Parmi eux, Philippe Le Bouteiller, l'un des régionaux de l'étape, puisque l'année dernière, Philippe, vous avez été le grand gagnant de la finale nationale avec deux prix, plus deux prix également lors de la finale internationale. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous d'ailleurs depuis l'année dernière en tant que doctorant?
Alors, en tant que doctorant, la première chose, c'est que j'ai terminé ma thèse et j'ai soutenu en décembre.
Bravo.
Donc ça, c'était une étape. Voilà,
ça y est, c'est fait.
Une bonne chose de faite, exactement.
Enfin, ouais.
Et suite à la thèse, j'ai créé une start-up avec deux anciens collègues de mon laboratoire. Mm-hmm. Donc, je l'ai cofondé Imagine en janvier.
Ouais.
Et voilà, je pense que...
Une start-up dont on va parler avec vous tout à l'heure, qui s'occupe un peu d'environnement quand même.
Exactement, tout à fait. Ouais. On est vraiment au cœur des problématiques environnementales, de recyclage, d'eau polluée.
Et puis à vos côtés, Jean-Pierre Nozière, vous êtes le deuxième grenoblois du jury, physicien, cofondateur de SpinTech, c'est un laboratoire de spintronique et de technologie des composants. Vous avez reçu la médaille de l'innovation du CNRS en 2017, et on va voir d'ailleurs avec vous que Grenoble est un hotspot de la science et des technologies, hein.
Oui, bah, il y a une histoire à Grenoble, hein, qui date de Monsieur Néel, Louis Néel, le prix Nobel, hein, de physique, oui. Et la création du CEA, du CNRS, de l'université. Et il y a toute une culture qui s'est développée, de même que certaines villes comme Toulouse sont devenues des hotspots de l'aéronautique. Grenoble, oui, est devenu un peu le hotspot des micro-nanos.
C'est vrai.
Donc la microélectronique, les nanotechnologies, mm-hmm, la physique, les sciences dures, par opposition aux sciences qui ne sont,
exactement,
pas dures.
Exactement.
Faut faire attention à ce qu'on dit.
Et ça, c'est formidable, parce que
les sciences tendres.
Hier, vous avez récompensé les sciences tendres, les sciences molles, hein, comme on dit, avec en particulier la musicologie que représentait Tom. Et puis enfin, Chloé Ponzoiron, vous êtes comédienne et lauréate du concours d'éloquence Fondation des Femmes 2017. Vous étiez hier soir donc l'un des membres du jury d'MT 180. Moi, je trouve que c'est un très joli mot, l'éloquence. Il est très français aussi, je trouve. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans l'art de l'éloquence qui fait un peu partie de notre culture. Ça renvoie à quoi pour vous qui êtes comédienne, justement, ce mot ?
Ben, l'éloquence et particulièrement les concours, c'est l'art de convaincre par à la fois le texte qu'on a écrit, mmh, et à la fois par sa capacité à l'incarner devant un public. Et donc c'est et les mots et la gestuelle, ça se rapproche très fortement, ouais, du théâtre. Donc c'est un bel exercice de style.
Ouais, ils ont été très convaincants, hein, hier
particulièrement,
soir, les 16,
ouais,
finalistes. Allez, on se retrouve tous dans un instant. Et puis, bien sûr, vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent en direct, même si nous sommes ici à Grenoble. Les mails passent tout à fait bien, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque.
Oh oui, c'est bon le bonheur du grand large. Ton homme a livré la marchandise ou il l'a pas livré?
Mon homme a livré.
Et ça a pas été si facile.
Parce que des tas d'autres poissons clowns convoitaient cette maison.
Je te prie de me croire, Corail, ils avaient tous l'œil dessus.
Je te félicite, et le quartier m'a l'air génial.
Où est passé tout le monde? Corail, rentre dans la maison vite.
Voilà un extrait du Monde de Nemo à la une de la science aujourd'hui avec une question, Axel. Comment réagit un poisson lorsqu'il perd sa moitié? Et c'est une étude très sérieuse qui tente d'y répondre.
Oui, c'est un peu triste. C'est une première dans l'étude des émotions chez les couples de poissons. Une équipe de chercheurs de l'université de Dijon montre que lorsqu'elle est privée de son partenaire, la femelle cichlidée zébrée est beaucoup moins intéressée par la recherche de nourriture que lorsque son mâle est à proximité. Vous allez le voir, c'est tout un art de faire des expériences de ce genre avec des poissons et nous en discutons avec celui qui a tout imaginé, François-Xavier de Chaume-Montcharmont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis les locaux de France Bleu à Lille. Vous êtes chercheur en écologie comportementale au laboratoire biogéosciences de l'université de Bourgogne. Un mot sur ces poissons, les cichlidés zébrés, pour commencer, que vous avez invités dans votre laboratoire. Comment les avez-vous choisis? Il vous fallait des couples bien solides, hein, pour l'expérience.
Oui, alors en effet, on travaille sur les régimes d'appariement, les systèmes d'appariement dans la nature, et on s'intéresse notamment aux espèces qui sont monogames. Alors les espèces monogames, on les trouve essentiellement chez les oiseaux, mais ça m'intéressait pas beaucoup de travailler sur les oiseaux, il y a déjà beaucoup de monde qui travaille chez les oiseaux, oui. Et ce qu'on avait voulu faire, c'était changer un peu de modèle biologique, et on a été chercher ailleurs que chez les oiseaux, notamment chez les poissons. Il y a quelques espèces de poissons, elles sont assez rares, mais il y a quelques espèces de poissons qui sont monogames. C'est le cas du cichlidé zébré, qui a la particularité de faire des couples très très stables dans le temps. Le couple se forme lentement, une fois que le couple est formé, il s'occupe de construire des nids, de défendre le nid contre des intrus. La femelle pond, le mâle et la femelle s'occupent de la ponde, défendent le territoire, s'occupent des alevins pendant, oui, plusieurs semaines. J'ai coutume de dire que c'est un peu comme des oiseaux avec des écailles, ces petits poissons. Là, ils vivent sous l'eau et ils ont des comportements très 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 marqués.
Alors on va arriver au moment triste de l'expérience, parce que pour tester l'effet d'une séparation forcée, bien sûr à un moment, vous avez enlevé les mâles des aquariums. Comment est-ce que les femelles ont réagi alors ?
Alors, ce qui est assez frappant dans cette étude, c'est quand on retire le mâle à sa femelle, elle n'a pas l'air spécialement paniquée. Elle n'est pas prostrée dans son nid, elle n'a pas l'œil vitreux, elle n'est pas... voilà. Il n'y a rien de spectaculaire. Par contre, Quand on commence à aller regarder un peu finement ce qui se passe au niveau cognitif, dans sa manière d'appréhender le monde, dans sa manière de percevoir le monde, on se rend compte qu'il y a des différences assez marquées qui apparaissent. Notamment dans un test comportemental assez classique en psychologie humaine qu'on appelle le test d'ambiguïté, c'est votre réaction face à une information un peu ambiguë. On a pu mettre en évidence que les femelles dont on avait retiré le mâle avaient un biais de pessimisme. Elles devenaient un peu pessimistes. Un biais de pessimisme.
Oui. Alors, vous l'avez dit, c'est une expérience de psychologie humaine, ça veut dire quoi être pessimiste pour un poisson ?
Alors, évidemment, sur un humain, on peut vous interroger, on peut vous questionner, on peut vous forcer à verbaliser un peu votre perception du monde. Sur un poisson, les faire parler, ça marche pas bien. Donc, on a dû ruser un petit peu pour arriver à développer un protocole de test de personnalité, enfin d'émotions, pardon, chez les poissons. Et alors là, c'est une idée originale de Chloé Lobu, qui était en thèse dans le laboratoire à l'époque, qui a eu l'idée d'aller adapter un test assez classique en psychologie humaine, le test d'ambiguïté, mais l'adapter aux poissons. Et on a eu cette idée-là en allant plonger dans les lacs du Nicaragua pour observer ces poissons. On les voyait très très souvent fuir le sable, fuir le substrat à la recherche de nourriture. Et l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, bah voilà, peut-être que les poissons, on pourrait leur cacher de la nourriture dans un substrat pour voir s'ils sont motivés à la manger. Ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a appris à ouvrir les boîtes. Première étape. Il faut qu'ils se comportent bien face à une boîte, un objet nouveau pour eux. Très rapidement, les poissons comprennent qu'il y a potentiellement à manger sous une boîte couverte, mettons, par un plastique de couleur blanche. Mmh. Et on leur présente aussi une boîte, mettons, recouverte par un couvercle de couleur noire. Et là, il n'y a rien à manger dedans. Et là, le poisson, très très rapidement, comprend que dans une boîte, il y a à manger, dans l'autre, il n'y a pas à manger. Il reconnaît les deux boîtes, il mémorise très très bien les deux boîtes, il n'y a aucun problème. Vous lui présentez la boîte récompensée de nourriture, il y va tout de suite. Vous lui présentez la boîte non récompensée, il n'y va jamais. Et le test commence quand vous lui montrez une boîte ambiguë, c'est-à-dire une boîte couverte par un couvercle gris, par exemple, ici intermédiaire entre le blanc et le noir qu'on avait utilisé précédemment. Donc un couvercle gris. Et la réponse du poisson à cette boîte ambiguë qu'il n'a jamais vue est une mesure de sa réaction face au monde, face à la probabilité de succès ou de gain qu'il pourrait avoir. L'image que j'utilise toujours, c'est un peu l'image du verre à moitié plein et du verre à moitié vide, de se dire que si vous êtes optimiste, vous allez voir le verre à moitié plein, si vous êtes pessimiste, vous allez voir le verre à moitié vide. Dans le cas du poisson, c'est un peu ce qui se passe, on lui présente une boîte qu'il n'a jamais vue, alors peut-être qu'il va se dire « Ah, cette boîte, j'ai jamais vue, il y a sûrement à manger dedans oui. ». Et ça marque un optimisme. Ou alors, cette boîte, je ne l'ai jamais vue. Il n'y a peut-être rien, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas y aller. Et ça signale un pessimisme.
Alors, pour terminer, rassurez-nous, vous avez reformé les couples après l'expérience ?
Absolument. Non, c'est un enjeu important, un enjeu éthique déjà. Si les poissons sont capables d'émotions, ça nous engage, nous, citoyens, nous, scientifiques, à pas faire n'importe quoi dans nos manips. On est très, très soigneux très respectueux des chartes éthiques en science. Et donc, effectivement, dans le cas de l'étude qu'on a effectuée, on tenait beaucoup à ce que le poisson ne soit pas exposé trop longtemps à cette situation un peu compliquée pour lui. Donc les couples ont été rapidement reformés après l'expérience.
Nous sommes rassurés, l'histoire se termine bien. François-Xavier Dechaume, mon charmant, merci beaucoup pour la description de cette étude qui vient de paraître. Axel, on se retrouve lundi.
Oui, à lundi Mathieu.
Et dans un instant, on accueille en direct de Grenoble les lauréats de ma thèse en 180 secondes.
S'alléger de tous leurs tourments, veulent-ils se laver de toutes leurs fautes, veulent-ils retrouver la légèreté, ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire jour, tout simplement, où on a quand ils sont les uns dans les autres. Quand ils sont peau contre peau, quand ils ont bien refermé la porte, se disent-ils des mots, des choses que l'on chuchote et qui font que la peau aspire la douceur de la phrase, la syllabe presque morte. Faire, faire, faire l'amour. Faire, faire, faire l'amour.
Les gens, c'était Mieux Sec avec le club de la Tête au Carré cet après-midi en direct de Grenoble, au lendemain donc de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes pour vous faire revivre ce qui s'est passé hier soir à la Maison de la Culture de Grenoble. Nous sommes dans les studios de France Bleu Isère en compagnie des trois finalistes du concours mais également avec trois membres du jury parmi lesquels deux scientifiques grenoblois et bien sûr vous nous rejoignez avec vos messages, toutes vos questions franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
C'est parti.
La Tête au Carré. Ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi.
Pour moi, ma thèse en 180 secondes et, l'ampleur que c'est en train de prendre, je trouve ça assez, assez génial en termes de déclencheur de curiosité. Je trouve que c'est avec en plus l'éloquence dont arrivent à faire preuve tous ces jeunes chercheurs, c'est vraiment une manière de venir un petit peu nous bousculer dans nos zones de confort, chatouiller nos curiosités, et je trouve que ça donne une envie de dévorer le monde et de poser plein de questions autour de nous et de regarder tous les phénomènes aussi bien dans la nature que sociaux qui nous entourent avec un regard un petit peu tout neuf et que ça réenchante un peu le quotidien.
Voilà, interrogé par Frédéric Milano juste avant que les doctorants ne montent sur scène. Il y avait du monde hein, au port de la Maison de la Culture hier, 900 personnes en tout cas dans la salle. Et eh bien nos thésards doctorants et vainqueurs avec nous, Tom Mébarki, Léa Vandevier et Apolline Chabenat. Et puis trois membres du jury, Philippe Le Bouteiller, Jean-Pierre Nozière et Chloé Ponce-Voiron. Et Tom Mébarki, bon, on va commencer avec vous quand même Tom, parce que vous êtes le grand gagnant de cette soirée. Bravo, avec deux prix, le prix du jury, le premier, mais également le prix du public. Un prix qui j'imagine a dû vous faire particulièrement plaisir. Quand même le prix du public, non ?
Ah ben bien sûr, c'est-à-dire que c'était vraiment, c'était une surprise déjà d'avoir
deux prix dans la soirée.
Un prix, alors deux, c'était une double surprise. Ouais. Effectivement, le prix de la spontanéité, finalement le prix de la soirée en elle-même, et puis le prix du jury qui est aussi pour moi très important parce que c'est le prix d'une reconnaissance de l'institution à laquelle je tiens aussi énormément. Ouais.
Et puis alors, ce qui est formidable, c'est que ça récompense aussi alors les sciences douces, comme on le disait tout à l'heure. Comment vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Nozière, le terme
tendre.
Les sciences tendres, voilà, pour parler de la musicologie qui est votre discipline.
C'est les mots de Tom.
Ouais. Oui, c'est-à-dire que je suis très très fier de pouvoir montrer que la musicologie soit aussi une science et pas simplement un bruit de fond, mais une science au même titre que toutes les autres sciences.
Ouais.
Et à ce propos, j'aimerais vraiment remercier Aix-Marseille Provence Méditerranée qui m'a permis de vraiment pouvoir porter mon projet jusque-là, et puis mon laboratoire Prisme, évidemment.
Oui, ce laboratoire de perception, représentation, image, son et musique. Léa Vandevier également était dans les sciences tendres, finalement, avec la linguistique.
Oui, c'est un peu entre les deux. Ouais. Je ne sais pas comment on dirait.
Le mi-tendre, le mi-dur.
Oui, science à point.
Le mi-cuit, alors.
Ouais, mi-cuit, oui, exactement.
Les sciences du mi-cuit. C'est parfait. Voilà. Et puis, Apolline, par contre, elle était dans le dur de l'histoire, quand
le
même.
Le dur, ouais.
Hein. Avec quel sujet, rappelez-nous, Apolline ?
Avec le sujet les effets des antidépresseurs sur le camouflage, la sèche et du crabe.
Voilà, et alors ça a scotché tout le monde sur place.
Hein. Apparemment.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de thèse, là, franchement ? Et donc, on avait envie de vous entendre.
Ouais, parce que tout le monde sait ce que c'est qu'un médicament, un antidépresseur. C'est pas forcément abstrait, mais on se demande ce que ça fait, ce mélange d'antidépresseurs et de sèche et de crabe.
C'est ça, c'est ce que vous nous avez raconté hier soir. Chloé Ponce-Voiron, alors vous êtes comédienne et vous étiez membre du jury hier soir. Alors, franchement, moi, j'aurais eu beaucoup de mal à être à votre place parce que le niveau, mais sincèrement, la qualité des prestations était vraiment exceptionnelle cette année. Ça a beaucoup discuté, vous, entre membres du jury, pour essayer de décerner les prix. Comment ça s'est passé, alors ?
Oui, alors c'est vrai que c'était dur parce que les 16 candidates et candidats étaient vraiment vraiment top au niveau. Et moi, c'est ce que je disais, je suis la seule vraiment pas scientifique du tout de la bande. Et j'ai tout compris.
Ah,
et ça, c'est magique. Ouais. Donc déjà, je me disais, si j'ai pas compris, c'est raté. Mais j'ai compris les 16 interventions. Donc ça, c'était exceptionnel. Et en plus de comprendre, j'ai adhéré, ça m'a donné envie, j'ai eu envie de comprendre mieux. Enfin, ça a ouvert ma curiosité, comme disait la personne juste avant. Ouais. Donc, c'est ça qui est vraiment génial, avec des styles différents, avec des attaques différentes. Mais en tout cas, on était assez d'accord tous les cinq dans le débat. On était un jury harmonieux qui a trouvé le consensus.
Ça ne s'est pas trop écharpé.
Ça ne s'est pas écharpé, mais ça a quand même pas mal discuté. Ouais.
Ouais. Jean-Pierre Nozière, alors, parce qu'évidemment, vous étiez dans la salle pour entendre les prestations. Moi, ce que j'ai ressenti vraiment, c'était aussi le plaisir de les écouter. Il y avait vraiment une attention et une réactivité du public qui était formidable.
Oui, parce que je pense qu'ils ont vraiment tous réussi à bien mélanger le côté chaud, le côté un peu la forme, et puis le fond, en faisant quand même, réussissant quand même à travers cette forme, à bien faire passer tous les messages et toute la science qui était derrière. Oui. Et moi, j'ai beau être un scientifique, les 9/10 des sujets, j'y comprenais rien non plus à la base, et je me suis régalé, et j'avais amené avec moi mes deux garçons, le grand et le petit, qui se sont aussi régalés. D'ailleurs, quand on est rentré à la maison, on a immédiatement logué sur Internet et réécouté certains des exposés jusqu'à minuit.
Ah, vous êtes fou furieux quand même, la famille. Philippe Lebouteiller, vous avez revécu ce qui vous est arrivé dernière, c'est-à-dire de monter sur scène et de remporter les deux premiers prix aussi. Hein.
Oui, effectivement, c'est vrai que je me suis mis très facilement, peut-être un peu trop d'ailleurs, à la place des candidats, c'est-à-dire que j'étais tout aussi excité qu'eux avant le début de la soirée. Oui. C'était, et puis j'ai réalisé un peu la chance que j'avais eue l'an dernier de vivre cette aventure. Quoi. C'était fabuleux. Et c'est vrai que j'ai découvert le concours l'an dernier et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de vivre une soirée comme ça, le public était toujours au rendez-vous. Et
mais hier, ils étaient extra quand même. Oui. Hein. Vous l'avez ressenti vous aussi sur scène ou pas, Tom?
Ah bah oui, clairement, c'est-à-dire que le nombre de personnes était vraiment proportionnel à toute l'énergie qu'il nous donnait. Il y avait vraiment, honnêtement, de toutes les représentations qu'il y a eu, cette soirée était particulièrement intense en termes d'émotion et d'échange avec le public.
On va vous retrouver d'ailleurs sur scène tout de suite, on va réentendre un extrait de votre prestation, un extrait des 180 secondes, et c'était donc hier soir sur la scène de la Maison de la Culture de Grenoble.
Je travaille sur des compositeurs morts qui, en leur temps, eux, étaient de vrais rockstars. Et c'est notamment le cas d'un certain Gioacchino Rossini, que j'aimerais aujourd'hui vous présenter un peu comme le Shakira de l'opéra. Vous avez l'image? Quoi, vous avez vraiment l'image? Bon. Eh bien, mon travail consiste à démontrer en effet la proximité entre d'une part la musique de Rossini et d'autre part les musiques commerciales d'aujourd'hui. Parce qu'en effet, pour l'une comme pour l'autre, l'harmonie va être simple, voire minimaliste. Le rythme va être répétitif à l'excès. Et la mélodie va souvent jouer sur une dimension enfantine. Ça, c'est pour le côté vocal. Et pour le côté instrumental, Rossini va utiliser la voix de deux manières. Soit en la faisant vocaliser d'une manière qui peut anticiper les vibes dans le R&B aujourd'hui, par exemple, ou soit en la faisant chanter, parler très vite, ce qui fait de Rossini l'un des premiers rappeurs de l'histoire de la musique.
Et voilà, et ça c'était ce qui vous a valu ces deux prix, Tom Mébarki hier soir à Grenoble, voilà. Et vous avez réussi à faire un numéro, alors vous étiez peut-être un peu avantagé, parce que la scène ne vous est pas totalement étrangère, évidemment, hein. Et c'est vrai que c'était un atout quand même pour affronter le public hier soir.
C'est vrai, j'avoue que du coup, vu que je suis aussi chanteur d'opéra, et donc c'est vrai que je me produis sur des scènes, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que j'ai ressenti exactement les mêmes émotions entre quand je suis musicien, et là le fait d'être monté sur scène en tant que musicologue, il y a eu exactement la même chose qui s'est passée, le même track, les mêmes sentiments, le même public, et c'était vraiment ça m'a vraiment fait drôle de me dire que je pouvais ressentir ce que je ressentais en tant que musicien, mais sous la casquette de musicologue.
C'est ça, alors le scientifique et le musicien qui ont été récompensés hier soir. Léa, ce qui était assez frappant aussi, parce qu'on a suivi toutes les étapes des finales avec vous, depuis les finales régionales jusqu'à hier, donc la finale nationale, c'est de voir aussi que vous avez passé un vrai cap, et je trouve qu'hier il y avait une qualité dans vos prestations qui n'était pas présente autant, en tout cas lors des demi-finales. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez ressenti, vous, de votre côté? C'est-à-dire que vous avez fait vraiment un grand bout de chemin là.
Mais d'abord merci, c'est très gentil. Je crois que c'était le public justement qui nous a motivés tous. Ça faisait un peu gladiator dans les coulisses parce qu'on entendait un peu de loin le bruit du public.
Et la
qui
salle,
faisait peur
la salle
en
il faut l'écrire à la salle aux auditeurs, c'est une salle de musique classique.
Oui, tout à fait.
Donc assez chaleureuse d'abord parce qu'elle est elle est construite en bois, mais elle est immense. Il y avait pratiquement 1000 personnes dans la salle.
Tout à fait. Donc ce qui fait peur en même temps, ça motive quoi, ça excite. Et donc je crois que c'est ça qui pousse à faire son mieux possible. Oui, tout à fait.
Apolline, pour vous aussi, il y a eu un supplémentaire de
Ah oui, franchir. Moi quand j'ai vu que j'avais eu la chance de pouvoir participer à la finale, j'ai vraiment mis les petits plats dans les grands et puis je me suis vraiment entraînée.
Vous avez retravaillé le texte?
Ah oui, j'ai retravaillé le texte, j'ai ajouté un peu de scénique, j'ai ajouté des gestes en plus grâce à mon copain qui m'a aussi fait répéter pas mal et qui m'a dit ouais, moi je mettrais bien ça, etc. Donc,
Chloé Ponce-Voiron, le regard de la comédienne, là aussi, parce qu'ils ont tous tenté des choses. Hein. Il y a un candidat qui a tenté un rap, il y a eu des chorégraphies, enfin, on a tout vu, finalement. Il y a eu une diversité de propositions aussi. Hein.
Oui, il y a eu de l'audace dans la présentation, sachant que le fond peut paraître rébarbatif. Bah là, vous savez comment, maintenant, dans les dîners, vous allez pouvoir intéresser tout le monde et ne plus endormir vos familles. Non, c'était la forme était vraiment très, très agréable et surprenante.
Ouais. Philippe Le Bouteiller, alors vous, du côté de l'ancien Thésard et puis aussi du membre du jury, est-ce que vous avez senti la cohésion du groupe aussi? Comme l'équipe de foot là qui arrive jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, il y avait ça hier finalement chez les Thésards. Hein.
Oui, effectivement. Alors moi, je les ai pas vus avant le début de la finale, mais par contre, c'est vrai que pendant le déroulement de la soirée, là, je les voyais dans leur coin, là, dans les fauteuils au premier rang sur le côté. Mm-hmm. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui se ressentait. Ils s'encourageaient les uns les autres, et je pense que, enfin, c'est l'expérience que j'avais aussi l'an dernier, et ça, c'est quelque chose de très fort, et ça permet de vivre une très très belle soirée en tant que candidat.
Oui.
Je pense.
Apolline, c'était important ce groupe des 16 là.
Ah oui, c'était hyper important parce que en fait, on faisait les 100 pas comme on disait tout à l'heure, et c'est vrai que on était là en train de s'applaudir, en train de se faire des câlins, à un moment on a hurlé tous ensemble. Enfin, c'était vraiment super chouette.
Et vous avez un groupe Facebook, hein, que entre vous, le groupe des 16,
oui.
Vraiment. Hein.
Non, on a le groupe avec tout le monde, avec tous ceux de la demi-finale en fait.
Ah oui, quand même.
Ouais, voilà.
Oui.
Et comme ça, on peut vraiment dire, par exemple, ce soir, on va se boire une bière avant de prendre le train. Donc, ouais. On est tous au courant.
C'est ça. Donc, vous allez encore faire la fête un petit peu à Grenoble. Léa, ouais. on n'a pas donné le sujet de votre thèse tout à l'heure.
Oui, c'est la phonologie des consonnes rares, une approche typologique.
Voilà. Vous nous refaites juste le début. Vous nous l'aviez fait aussi à l'antenne, avec tous ces sons qu'on entendait.
Avec les sons.
Oui, bien sûr.
Donc, on avait les clics, les consonnes à clics. Donc, on a les pharyngales. Donc, on a les labio-vélaires. Et les TH, ça s'entend voilà. Un peu moins.
Et ça marche bien sur scène, ça, évidemment. Hein.
Oui, un peu moins sur la radio, j'imagine. Mais...
Ah si, au contraire, ça marche très très bien. Allez, on est ensemble ici dans les studios de France Bleu Isère à l'occasion de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Et puis bien sûr, on va s'intéresser également à la science grenobloise, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs ici qui travaillent dans ce domaine.
Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this jest? Let the rock roll. Let it go, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. We'll
Sisyphus, c'était la voix d'Andrew Bird.
La tête au carré, le club.
Je ne savais pas qu'on pouvait parler de science de façon aussi poétique, aussi éloquente, aussi accessible aussi. C'était une merveilleuse soirée, j'ai appris beaucoup de choses, y compris sur la parole. Dans les concours d'éloquence, on voit des sujets complètement vains, qui n'ont aucun intérêt, alors que là, vraiment, ils viennent offrir généreusement au public le fruit de leur recherche pour partager, pour vulgariser sans être vulgaire, mais quelque chose qui a du sens pour eux, qui représente l'essentiel de leur vie. Ce sont des jeunes qui sont dans la recherche fondamentale, pour la plupart, dans des sujets extrêmement complexes, dans des laboratoires, dans un travail parfois un peu solitaire, et ce moment de partage, ce moment d'ouverture aux autres, d'ouverture aussi et d'échange entre eux, a été pour moi vraiment extraordinaire. Je suis très heureux d'avoir ces 16 nouveaux filleuls.
Ah ben oui, parce que c'est le parrain Bertrand Perrier hein, qui vous a accompagné pendant cette aventure, qui est avocat et qui enseigne l'éloquence également. On l'a beaucoup vu ces derniers temps en parler. Et puis les messages des auditeurs qui arrivent donc pour parler de cette finale nationale de ma thèse en 180 secondes, puisque nous sommes, je vous le rappelle, en direct de France Bleu Isère à Grenoble, avec Aurélien qui nous dit ici, j'emploie le mot science tendre dans ma thèse soutenue en 2000 et je ne l'ai pris à personne. Tendre signifie tendre comme un steak tendre ou comme âge tendre. Ces sciences sont jeunes et il est absolument nécessaire d'avoir une certaine tendresse pour son objet, nous dit Aurélien. Tom Mébarki, ça vous parle?
Je ne peux que partager cet avis-là. Alors, steak ou tourneau d'eau, peu importe, mais oui. En tout cas...
Il y avait du tourneau d'eau d'ailleurs dans votre thèse. Hein. Tourneau d'eau Rossini, évidemment, puisqu'il s'agissait de musicologie.
Oui, le fait est que science molle, on a vraiment un côté péjoratif, mais je trouve que science dure a aussi un côté péjoratif qu'il faudrait peut-être changer.
Oui, Jean-Pierre Nozière, que répondez-vous à cette accusation?
Moi, je n'ai pas d'opinion sur la question. C'est vrai que
science
dure, science molle, c'est un jargon qui existe depuis des années et je sais qu'il froisse un peu nos collègues des sciences humaines et sociales. C'est comme ça qu'on les appelle. Ouais. Donc, j'ai aucun problème à l'appeler ça à partir d'aujourd'hui les sciences tendres.
Ouais. Alors, on a aussi des critiques sur le concours et on veut s'en faire l'écho, évidemment. Il y a Antoine qui nous écrit. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du succès de ma thèse en 180 secondes en France, on a aussi vu arriver un certain nombre de critiques. Et Antoine nous dit ceci, j'adore votre émission, mais il faut arrêter avec ces histoires de business autour des thèses. Comme d'habitude, pour un avantage infime, on communique, on fait découvrir, on démolit, dit-il, et on dénature. Et celle qui dit pitoyablement « je sors de ma zone de confort », alors je ne sais plus qui c'était Léa ou Apolline, eh bien, expression à la noix, si présente hélas dans nos sociétés décadentes, et la preuve bien que nous sommes dans un moule insipide. Et qui dit mieux que France Culture qui en parlait à ce sujet-là, ma thèse en 180 secondes rencontre un écho si fort dans la société, c'est parce qu'elle répond à l'injonction d'importer dans le monde académique les codes de la Startup Nation. Les chercheurs doivent devenir des chercheurs entrepreneurs. Alors, c'est vrai qu'on lit de plus en plus ce genre de critiques. Apolline, vous souhaitez répondre?
Bah justement, sur notre petit groupe Messenger avec tous les candidats, on a déjà parlé de ça en se disant, mais c'est dommage qu'on nous critique, parce que le but, c'est voilà, on a un contrat, on se dit, voilà, on a envie de parler de notre thèse, c'est de l'argent public, donc finalement, on doit de partager notre recherche. C'est important pour les chercheurs et c'est surtout important pour le grand public qui comprenne qu'est-ce qui se passe dans tous nos labos, que ce soit justement dans les sciences dites dures ou dans les sciences humaines et sociales. C'est très important et je ne sais pas si Léa, tu veux ajouter
oui,
quelque chose.
Oui, absolument. La recherche, c'est fait pour ça. C'est justement pour partager avec un public ce qu'on fait.
Mais quand Antoine dit on dénature, on démolit finalement avec cet exercice en 180 secondes, vous lui répondez quoi?
Le but, c'est vraiment de piquer, pour reprendre l'expression d'Alexandra qui était avec moi à l'émission il y a peu de temps, c'est vraiment de piquer le public et d'avoir vraiment cet intérêt et de se dire, ah c'est ça les sciences, que ce soit justement en musicologie ou autre, et de se dire, ah mais j'ai peut-être m'y intéresser et d'avoir les questions du public.
Absolument. Et c'est ça qui forme les chercheurs de demain.
Alors, on va se retourner vers la Startup Nation, parce qu'on a quand même deux entrepreneurs avec nous, Jean-Pierre Nozière et Philippe Le Bouteiller. Donc, évidemment, ils vont pas être tellement d'accord, non?
Moi, je suis l'archétype du chercheur qui a dérivé, on va dire, vers la Startup Nation.
Ouais, vous n'êtes plus beaucoup derrière la paillasse, vous, hein?
Je suis plus du tout derrière la paillasse. Startupper, c'est mendiant professionnel, donc ça veut dire je suis chercheur en argent, en fait.
Ouais.
C'est mon métier aujourd'hui.
Mais très tabou en France, hein?
Alors, je pense surtout déjà qu'il faut pas, pour répondre à cet auditeur, il peut être agacé parce qu'effectivement, il y a beaucoup de buzz qui se fait sur le côté Startup Nation, etc. Mais il faut pas opposer au niveau de la recherche, la recherche appliquée, la recherche à des fins commerciales et la recherche fondamentale. L'une se nourrit de l'autre. Et par certains côtés, quand on fait de la recherche appliquée, si on part de la fin du film et qu'on remonte au début du film, c'est-à-dire on part de la fin qui est le pourquoi faire, au début qui est le pourquoi, c'est la même science, c'est la même recherche, c'est les mêmes problématiques, avec peut-être un contenant différent, hein, des contraintes financières, des contraintes de temps différentes, mais c'est la même science.
Ouais, surtout que là, on s'est aperçu que finalement, c'est que des sujets de sciences fondamentales, hein, ce qu'on a vu hier, avant même les nombreuses applications possibles. En tout cas, on est aussi dans cette recherche-là qui est valorisée. Philippe Le Bouteiller.
Oui, oui. Pour moi, en fait, le format est court, mais c'est une porte ouverte. Enfin, on ouvre une porte. Effectivement, on essaye de susciter un intérêt derrière. Et pour moi, c'est la même chose que ce soit dans le cadre du concours où on parle de recherche, et puis également dans le cadre d'une start-up où effectivement on est amené régulièrement à pitcher. Mmh. C'est très à la mode. Voilà, l'objectif, c'est de susciter un intérêt pour ensuite derrière entrer plus dans le détail. Quand on a en prenant un peu plus le temps.
Chloé Ponce-Varon, alors vous n'êtes pas la scientifique du groupe, justement.
Non, je n'ai pas d'avis intéressant sur ça, mais sur le fait que c'est un exercice de style, en fait. C'est un jeu, c'est du divertissement aussi dans le public. On le vit, on n'est pas du tout scientifique dans le public. Et nous, le jury, on était vraiment au milieu du public, et on a vraiment ressenti ça, le divertissement, l'intérêt. Ouais. Et ce qui fait la spécificité de ce concours et que je trouve vraiment chouette, c'est que justement, vous parlez de ce que vous maîtrisez. On vous a pas imposé un sujet il y a une semaine. Vous êtes venu avec votre spécificité, votre expertise sur un domaine, et ça rend d'autant plus passionnant le concours, quoi.
Ouais. Jean-Pierre Nozière, est-ce que ça fait pas finalement plus grincer les dents les Français que les Anglo-Saxons, qui ont beaucoup plus cette culture déjà de la communication, hein, dès l'école? Alors que pour nous, en France, c'est assez nouveau, finalement, cet exercice-là. En plus, le demander à des scientifiques, c'est carrément inédit, presque, non?
Oui, alors c'est vrai que aux États-Unis, par exemple, dès le plus jeune âge, les enfants à l'école font des présentations en CE1, en CE2, on fait des présentations devant ses petits copains avec des posters, des trucs comme ça.
Et Léa peut en témoigner puisqu'elle est américaine.
Hein. Oui, tout à fait.
Voilà. Et c'est vrai que dans le monde de la recherche, c'est quelque chose de nouveau. Mais c'est un exercice extrêmement difficile, hein, il faut pas le dénaturer. Ouais. Expliquer en très peu de mots et en très peu de temps des sujets très complexes à des gens qui sont pas spécialistes, c'est très difficile. Et encore une fois, pour revenir sur la Startup Nation, il y a un exercice qui s'appelle l'elevator pitch, 20 secondes pour convaincre un banquier, le faire rêver, faire rêver un banquier, vous imaginez, en expliquant la techno, l'équipe, l'objectif, le marché. Ouais. C'est un exercice terrible. Et pour les jeunes chercheurs, ça leur permet vraiment d'aller rechercher vraiment l'essentiel de leur thèse. Et après, bon, la mise en forme, ça, c'est un autre problème.
Mais la critique de cet auditeur-là, Antoine, qui dit finalement, les chercheurs aujourd'hui, on leur demande de devenir des chercheurs entrepreneurs, absolument. Est-ce que ça, c'est une critique qui vous choque, Apolline?
Oui, le but, c'est pas de nous vendre ou de vendre un produit, en fait. C'est vraiment de faire découvrir une recherche, découvrir des projets qui sont fous. On parle d'antidépresseurs, de musique, de Shakira et de phonèmes. Mais donc, le but, c'est vraiment de piquer et de créer l'intérêt du public.
Allez, on va écouter Antoine Petit, qui est le président du CNRS, qui était hier évidemment présent à Grenoble, qui a des choses à dire également au sujet du doctorat.
Je pense qu'une manifestation comme celle-là est une revalorisation absolument extraordinaire de la recherche, et ça montre vraiment que cette recherche, elle a un impact potentiel sur la société. Et puis c'est aussi une jolie façon de revaloriser le doctorat. Alors les gens qu'on a vus là, ils sont pas encore docteurs, ils sont doctorants, mais tous évidemment vont devenir docteurs bientôt. Et on sait qu'en France, la place du doctorat n'est probablement pas celle qu'il mérite. Et donc, c'est aussi une occasion d'expliquer que préparer un doctorat, c'est aussi s'interroger sur de nouvelles questions, c'est aussi être capable de réfléchir, de faire des hypothèses et d'être capable aussi de les expliquer. Et on voit bien que les qualités qu'ils ont mises en œuvre pour cet exercice leur serviront dans la vie active.
Voilà, Antoine Petit, donc le président du CNRS, qui était présent hier ici à Grenoble. Alors Léa, c'est à vous que je m'adresse évidemment, parce que c'est vrai que la vision qu'on a du doctorat ici en France n'est pas du tout valorisée de la même manière que chez vous aux États-Unis.
Pas du
tout,
c'est complètement différent.
Ouais. C'est quoi justement la différence fondamentale finalement entre les deux?
Déjà,
être docteur aux États-Unis, c'est quelque chose quand même.
Ah, c'est quelque chose, absolument. Ouais. Là, le statut, c'est toujours quelque chose de prestige, si on peut l'appeler comme ça, mais c'est quand même, quand on parlait de vendre quelque chose, l'idée de pitcher quelque chose, pour nous, c'est pas un gros mot. En fait, quand on parle de financement, quand on parle de recherche, des startups, pour nous, c'est quelque chose qui est admirable. D'avoir un jeune docteur, par exemple, en face de nous, qui a son propre startup, pour nous, ça, c'est quelque chose, une réussite. C'est pas quelque chose à cacher.
Philippe Le Bouteiller, pour vous entendre également sur ce sujet, entre la différence de perception du doctorat entre nos deux pays. Ça vous inspire pas du tout comme sujet, hein. Vous me faites un signe de la tête.
Non, c'est simplement
je préfère parler de ma start-up.
Non, c'est pas du tout ça. Mais quand vous avez dit que effectivement c'était quelque chose aux États-Unis, enfin j'espère aussi que c'est quelque chose en France, et puis que alors ouais. tout dépend de quel point de vue on se place, mais je pense que aussi ça le devient de plus en plus dans la société et dans le monde, dans l'entreprise également.
Ouais. Allez, on va parler justement de votre travail à tous les deux, hein, nos deux membres du jury qui ont aussi monté leur petit business florissant autour des technologies, et puis aussi parler de Grenoble comme étant une terre de science aussi dans un domaine très particulier. Juste encore un petit mot à nos trois doctorants. Une des candidates hier a eu un trou de mémoire. Je crois que c'est la première fois de toute l'histoire du concours que je voyais un candidat. Alors c'est peut-être pas peut-être qu'il y a eu un problème aussi l'année dernière, mais j'étais pas présent. Ça, c'est comment vous étiez prêt à le gérer, ça ou pas? Vous y avez pensé? C'est quelque chose qui vous a beaucoup angoissé avant de monter sur scène?
Ah oui, je crois que c'est la question qui se pose juste ouais. avant. Est-ce que je vais avoir un trou de mémoire? Pour moi, en plus, parce que c'est pas ma langue maternelle.
Ouais.
Donc, un trou de mémoire dans une langue qui n'est pas la sienne, ça, c'est quelque chose qui est un peu effrayant. Ouais. Donc oui, c'est
Tom,
une peur qu'on partage.
C'était une petite crainte aussi pour vous ou pas?
Alors oui, tout à fait. Alors moi, il m'est arrivé quelque chose d'encore plus drôle, c'est-à-dire que et ça m'arrive à chaque fois. Et à chaque fois que je suis enregistré, ça m'arrive.
Alors,
j'inverse des mots et je dis vocal à la place d'instrumental et instrumental à la place de vocal. Comme ça a l'air de rien, mais en fait, c'est comme si on inversait le sel et le poivre en étant cuisinier. Oui. Quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver d'inverser ces deux notions quand on parle de musique.
Non, on n'a rien vu.
Hein. Merci.
On a rien vu. Il y a eu un trou de mémoire l'année dernière aussi.
Oui, l'année dernière, il y en a eu un. Oui, oui, tout à fait.
Ouais.
Ouais. Bah après, l'enjeu, c'est de réussir à se rattraper ou pas. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai trouvé ça admirable parce que pour finir, la candidate. Alors le public en général est c'est gênant pour le public. Donc le public réagit très très bien et de manière très bienveillante en général. Ouais. Et là, la candidate hier s'est rattrapée admirablement bien. Et elle allait au bout. Elle était dans les temps. Enfin, c'était génial.
Absolument. Voilà, un petit moment d'émotion hier à l'occasion de MT180. Allez, on se retrouve dans un instant. Nous sommes en direct et bien sûr, vos messages arrivent sur franceinter.fr.
Tu danse inespérée.
La danse des ombres, c'était la voix de Françoise Breut.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Alors moi, je viens pas du tout du monde scientifique, du monde de la recherche, et je trouve que cet événement permet justement d'accéder à ce qui se passe du côté de la recherche. Cet aspect de vulgarisation en 180 secondes nous permet de voir toute l'étendue du monde de la recherche, du coup, en France ici pour cette finale. Ça donne de l'espoir, ça donne de l'énergie. Et c'est incroyable de voir toute cette jeunesse, je trouve, qui travaille sur la science et pour le monde de demain.
Ah, cette jeunesse, elle est avec nous, évidemment, ici, en direct des studios de France Bleu Isère, au lendemain, donc, de la finale nationale de ma thèse en 180 secondes. Alors, Chloé Ponce-Voiron, vous n'êtes pas scientifique, on l'a dit tout à l'heure.
Non,
vous étiez dans le jury hier soir et vous avez remporté, vous, le prix coup de cœur Gisèle Halimi du concours d'éloquence de la Fondation des Femmes 2017.
C'est ça.
Quel est ce concours?
Alors, ce concours, c'est un concours un petit peu différent de MT 180, c'est-à-dire que c'est un concours qui est organisé pour faire naître des textes sur les droits des femmes et sur les femmes en général par des femmes, pour montrer à la fois et le texte et la capacité d'éloquence des femmes. Donc voilà, l'édition de 2017, c'était la première édition. La prochaine, là, est à la rentrée.
Et vous avez plein de projets également pour soutenir toujours cette idée de savoir parler en public, s'exprimer. Il y a Graines d'orateur, par exemple.
Exactement. Alors, Graines d'orateur, c'est pas mon projet, mais je le soutiens parce que vraiment, je le trouve formidable. On parlait de jeunesse et je crois que la jeunesse s'empare de cette méthode, de cet outil qui est l'éloquence et le concours d'éloquence. C'est une association de jeunes qui ont été à Sciences Po Paris et qui viennent de Bondy pour la plupart. Et sur leur temps libre, ils ont créé une association pour aller dans les lycées du 93 pour apprendre l'éloquence aux lycéens. Donc c'est formidable, c'est un succès fou. Et par contre, moi j'ai le projet avec l'association Fit une femme un toit qui gère un centre d'hébergement pour des jeunes femmes victimes de violences, d'un concours d'éloquence à la rentrée également pour apprendre à raconter une histoire, savoir embarquer les gens avec sa propre histoire et c'est formidable parce que du coup toute cette jeunesse justement s'empare de cette méthode qui était oubliée depuis quelques temps et qui est formidable pour raconter des histoires.
Alors, puisque nous sommes à Grenoble, parlons quand même des sciences ici dans ce hotspot des technologies d'innovation. Jean-Pierre Nozière, vous qui êtes physicien et cofondateur donc de ce laboratoire Spintronic et technologie des composants, c'est Spintech. Alors, vous le disiez tout à l'heure, il y a eu un prix Nobel ici qui explique peut-être un petit peu aussi l'histoire scientifique de Grenoble.
Oui, c'est clair que Louis Néel, prix Nobel de physique en 1972, a été à l'origine un peu de tout le développement de l'écosystème grenoblois. Après guerre, Grenoble, c'était vraiment un trou, hein, faut le dire de façon claire. Et il a développé, en fait, toute la ville s'est développée autour de cet écosystème recherche-industrie et qui aujourd'hui est vraiment le moteur de la ville. Alors on peut critiquer le fait que ce soit un petit peu, beaucoup de finances publiques arrivent là-dedans, mais c'est vraiment ce qui tire la ville et ce qui a créé son dynamisme.
Ouais. Alors dans quel domaine on est vraiment très fort ici? Alors dans le domaine des nanotechnologies par exemple?
Oui, on est très fort dans des tas de domaines, sciences dures, sciences tendres, tout compris, mais la spécificité de Grenoble, en tout cas la façon dont c'est perçu de l'extérieur, c'est les micro-nanotechnologies. Et avec beaucoup autour de la microélectronique, avec la présence d'un gros acteur industriel, ST Micro, dans le bassin.
Ouais. Et vous, Jean-Pierre Nozière, vous êtes à l'origine de la création de 4 startups, c'est ça?
Oui, alors d'abord, je suis pas à l'origine de la création de 4 startups. La recherche en général et l'entrepreneuriat en particulier, c'est un sport d'équipe. Mais effectivement, ces 4 startups qu'on a lancées au fil des années, et actuellement, je travaille dans une qui fait des mémoires magnétiques, qui s'appelle Anteos.
Alors, la Spintronic, racontez-nous, parce que moi, je me souviens du prix Nobel Albert Fert, qui était venu à la tête au carré en 2007, quand il a eu son prix Nobel, justement sur la Spintronic des électrons, la magnétorésistance géante. Rappelez-nous ce que c'est que la Spintronic.
Alors, la Spintronic, c'est un mot, une contraction entre spin et électronique. Le spin, en anglais, c'est le petit moment magnétique de l'électron qui tourne sur lui-même. Et donc, en fait, c'est la convergence en termes de science du nanomagnétisme et de l'électronique. Et en termes d'industrie, c'est l'industrie du disque dur et l'industrie de la microélectronique. Mais enfin, c'est un mot, c'est de la novlangue techno. Bon. On faisait de la spintronique, j'en faisais au début de ma carrière
sans
le savoir, comme Monsieur Jourdain.
Et alors, les applications concrètes, pour nous éclairer un peu sur...
Donc, la grosse application aujourd'hui qui est en train d'émerger, sur laquelle nous, on travaille dans notre start-up, c'est les mémoires magnétiques, ce qu'on appelle les MRAM. Donc c'est des mémoires dans tout composant, dans tout système électronique, vous avez des composants, des puces. Dans toute puce, vous avez des mémoires. Et les mémoires d'aujourd'hui, elles stockent des électrons. Et c'est comme un seau avec un trou. Vous remplissez d'électrons, vous remplissez d'eau, et en fait, ça fuit par le bas. Et en fait, cette technologie MRAM permet d'éviter les fuites et donc d'avoir des promesses de jours meilleurs.
Donc vous colmatez les fuites, en fait.
On colmate les fuites.
Vous êtes le plombier.
Les plombiers de l'électronique.
Ben, c'est pas mal, on aime bien l'image. Et je sais que vous aimez vulgariser, donc ça tombe bien. Philippe Bouteiller, vous, est-ce que vous travaillez dans un domaine un peu similaire avec Imagine?
Alors, pas vraiment.
Parce qu'on parle de magnétite, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, on produit un matériau qui s'appelle la magnétite. C'est son nom. C'est un oxyde de fer. Il s'appelle comme ça parce qu'il est magnétique, notamment. Par contre, nous, notre domaine, c'est la chimie et l'environnement. Donc, c'est pas du tout la microélectronique.
Ouais. Donc, après ma thèse en 180 secondes, l'année dernière, vous avez embarqué avec Imagine, c'est ça?
Exactement, oui, tout à fait. C'est un projet qui existait depuis de longues années, notamment au sein du laboratoire où j'ai fait ma thèse, l'Institut des sciences de la Terre. Ouais. Donc, dans un domaine assez différent de celui de ma thèse. Ouais. Par contre, je connaissais l'équipe qui portait le projet et ils m'ont proposé, suite au concours et puis suite à ma thèse, de rejoindre le projet pour créer la société.
Donc, vous vous êtes dit, tiens, c'est une bonne occasion d'arrêter de faire de la recherche?
Je me suis dit, c'est une bonne occasion de me lancer dans une nouvelle aventure après la thèse, avec une équipe formidable, et puis sur un projet aussi qui avait du sens, et donc qui était issu de la recherche et qui peut avoir un impact sur la société. Et je pense que dans ce cas-là, accompagner un projet comme ça, prendre part à un projet comme ça, c'est une opportunité fabuleuse.
On va en dire un mot dans un instant, Jean-Pierre Nozière.
Je voulais juste rajouter, Philippe, il a fait ce choix après sa thèse, mais aucun choix n'est irréversible. Mmh. Et une des beautés de la recherche, et en particulier une des beautés des structures de recherche en France, c'est de laisser aux chercheurs une grande liberté pour aller et venir d'un sujet à un autre, d'un endroit à un autre, d'un environnement à un autre. Moi-même, j'ai dû faire 4 fois l'aller-retour entre l'industrie et la recherche. Et ça, c'est vraiment une chance qu'on n'a pas forcément dans d'autres environnements et dans d'autres pays.
Bon, c'est un message envoyé aux doctorants, évidemment, parce que si on leur dit, après votre thèse, vous allez arrêter la recherche, c'est un peu dommage quand même, vu le temps que vous passez à travailler. Et Tom, qu'est-ce que vous allez faire après?
Alors, idéalement, je voudrais bien enseigner, puisque pour moi, la recherche, l'intérêt pour moi principal de la recherche, c'est d'être partagé, d'être enseigné, parce que sinon, c'est une recherche hermétique et égoïste, finalement. Et donc, du coup, idéalement, maître de conférence plutôt l'enseignement et la recherche en parallèle pour que les deux puissent s'irriguer.
Léa, un peu de linguistique encore, quand même?
Oui, encore. Moi, je suis en première année, donc j'ai un peu de temps quand même. Ouais. Donc, mais je suis entre le privé et le public. Moi aussi, j'adore enseigner la linguistique aux étudiants. Mais il y a aussi des applications dans, par exemple, l'intelligence artificielle.
Et Apolline?
Moi, je rejoins Tom et Léa. J'adore enseigner aussi. J'ai eu l'occasion en deuxième et en troisième année d'enseigner. Moi, je suis encore dans l'hésitation. J'adore la médiation scientifique aussi. Donc, je vais sûrement allier les deux à 50-50.
Bon, on va suivre ça de très très près, évidemment. Philippe Le Bouteiller, un dernier mot quand même sur le travail que vous menez, parce qu'il risque de nous intéresser l'année prochaine lorsque la tête au carré va devenir la terre au carré. On va beaucoup parler d'environnement à la rentrée. Et vous travaillez dans ce domaine, justement.
Oui, absolument. On travaille à l'intersection entre le recyclage de déchets industriels et la dépollution des eaux usées, c'est-à-dire qu'on produit notre matériau, donc la magnétite, à partir de déchets industriels avec notre technologie brevetée. Et ce matériau, on le destine à la décontamination des eaux et des sols pollués, notamment par les métaux lourds et par les polluants organiques émergents, des solvants, des pesticides, etc.
Donc ça, c'est avec Imagine. Et vous arrivez à travailler déjà à l'échelle industrielle?
Alors aujourd'hui, on est à petite échelle. Nous produisons des échantillons pour démontrer l'efficacité du produit. Ouais. Et on cherche des financements pour grandir.
Merci beaucoup à tous. En tout cas, moi, je vous applaudis parce que c'était vraiment formidable toute cette soirée, cette finale ici à Grenoble. Belle route à vous tous et à bientôt, j'espère, au micro de la tête au carré. Portez-vous bien.
Merci.
Et merci à Frédéric Cabri qui était à la technique ici à France Bleu Isère et Maxime Ingrand à Paris.